Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bon réveil sur BPM. Il est 8h03, bienvenue dans notre émission Les rendez-vous du Mantois que nous proposons chaque semaine, le vendredi à 8h en direct. Aujourd'hui, nous recevons Michel Vialet, député de la 8e circonscription des Yvelines. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de BPM.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous parlerons du protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Nous détaillerons le projet de loi concernant le pass vaccinal. Et puis, nous reviendrons sur la démission de Raphaël Cognet à la tête de la mairie de Mantes-la-Jolie. On commence donc par la Covid-19 et tout d'abord le protocole sanitaire dans les établissements scolaires qui fait beaucoup parler. Il y a eu plusieurs manifestations des professeurs ces derniers jours. Selon vous, que faudrait-il modifier dans ce protocole pour que l'enseignement puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles ?
Écoutez, d'abord, il faut revenir sur ce qui a été décidé la veille pour le lendemain. Puisque à 17h, un dimanche, le ministre de l'Éducation nationale a fait savoir quelles étaient les nouvelles dispositions à mettre en application dès lundi matin, c'est-à-dire quelques heures plus tard. Bien évidemment, le corps enseignant n'avait pas pu en prendre connaissance. Et ça veut dire qu'ils ont été confrontés à des décisions qui, manifestement, n'avaient pas été concertées. Les bonnes décisions à prendre en la matière auraient dû faire l'objet d'une consultation, d'une concertation beaucoup plus large, de façon à ce qu'on tienne compte des réalités. Vous savez, ça fait déjà plusieurs mois que les enseignants travaillent fenêtre ouverte. Alors quand on est en été, on peut peut-être s'en satisfaire. Mais compte tenu du climat que nous avons au jour d'aujourd'hui, être avec sa doudoune toute la journée sur le dos... je parle des enseignants, je pourrais dire exactement la même chose pour les élèves puisqu'ils sont dans la même pièce. Deuxièmement, cette histoire de test qu'on a décrété un jour et qui changeait quelques heures plus tard, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? Et puis, d'un point de vue logistique, rien n'a été prévu. J'ai parlé de concertation avec les enseignants, il aurait été intelligent de pouvoir s'assurer que les dispositions qu'on prenne pouvaient être appliquées. Moi, j'ai vu des queues infernales devant les pharmacies. Enfin, quand vous avez dès 9h du matin 40 personnes qui sont sur le trottoir en train de faire la queue pour pouvoir entrer dans une pharmacie et que c'est comme ça partout, on voit bien qu'il y a un vrai problème. Et c'était parents avec enfants, etc. Donc, on voit bien que ces dispositions sont... et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont été repris dans les heures qui ont suivi. Ça a été n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, puisque c'était votre question? Moi, ce que je pense, c'est que la première chose à faire, c'est d'abord de se rapprocher de façon plus importante et anticiper du corps enseignant qui va avoir à mettre en œuvre d'éventuelles dispositions. Et puis, manifestement, on peut dire qu'il y a certaines dispositions qui n'étaient pas forcément identiques à ce que le corps médical proposait. Je pense qu'une fois qu'on aura... et ça aurait été bien de le faire avant, vu et le corps professoral et le corps médical, on peut trouver des décisions qui soient plus appropriées, voire qui soient individualisées en fonction des situations.
Toujours à propos de Covid-19, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur le pass vaccinal. Vous faites partie des députés Les Républicains qui ont voté en faveur de ce pass. Pour quelles raisons ?
Le pass vaccinal est clairement une restriction des libertés. Pourquoi est-ce que je me suis résolu à voter ce pass ? Tout simplement parce que les incohérences, les manques d'action du gouvernement ont fait qu'il n'y avait pas d'autre solution de mon point de vue. En effet, ce pass vaccinal n'est absolument pas pour éviter la pandémie. Ce pass vaccinal n'a été mis en place que pour une seule chose, éviter la saturation et l'embolie dans les hôpitaux. Et je l'ai voté parce que j'ai rencontré un certain nombre de soignants qui m'ont dit « Mais surtout, faites quelque chose. C'est nous qui sommes en train de choisir ceux qui peuvent vivre, ceux qui peuvent mourir. C'est inacceptable. » Et pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation ? C'est parce que le gouvernement a fermé un certain nombre de lits, y compris depuis le début de cette pandémie. C'est près de 10 000 lits qui ont été fermés. Donc évidemment, alors qu'une situation d'urgence que l'on connaissait, autant on pouvait avoir été pris au dépourvu début 2020, autant on n'était plus exactement dans le même registre presque 2 ans plus tard. on a continué à fermer des lits. Et puis deuxièmement, on n'a absolument pas pris la mesure de ce qu'étaient les nécessités d'avoir des soignants supplémentaires. Il faut en gros 3 ans, je crois, pour pouvoir former une infirmière. Mais si on avait, dès le départ, engagé des formations, on aurait des étudiants qui auraient passé la première, voire la deuxième année. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà en situation, en capacité de pouvoir dispenser des soins, notamment ce qu'ils font couramment lors de stages. On n'a pas pris cette mesure. Donc on n'a pas plus de personnel qui est formé. Et troisième chose, comme on a absolument très maltraité le corps des soignants, qu'on a fait des promesses dans un Grenelle, dans un Ségur de la santé qui n'a pas été suivi des faits, je le disais à l'instant pour les lits, mais il n'a pas été suivi sur les conditions de travail. Enfin, vous avez un personnel médical qui fait partie des plus mal payés en Europe, et puis vous avez également un personnel médical qui, lorsqu'il fait des heures supplémentaires, ce à quoi il est contraint, ne peut même pas les récupérer. Un certain nombre des soignants se sont dit que, compte tenu de toute cette situation, ils allaient s'engager dans une reconversion professionnelle. Donc tout cela mène à une saturation des hôpitaux, et donc pour l'éviter, eh bien, le pass vaccinal vient limiter ceux qui, de façon assez autoritaire, certes, en tout cas en empêchant qu'il puisse y avoir dans des lieux où il peut y avoir un peu plus de contamination, eh bien, de faire qu'il puisse y avoir moins de personnes qui, en même temps, puissent arriver à l'hôpital. Et ce pass vaccinal, vous m'interrogiez tout à l'heure sur ce que dira le Conseil constitutionnel, on va l'attendre, moi je ne peux pas savoir ce qu'il dira. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la saturation des hôpitaux, la grande fatigue des soignants est une réalité qui est une réalité dramatique. Les médias ne le disent pas ou ne mettent pas suffisamment l'accent là-dessus. C'est un échec politique terrible parce que ça touche à la santé des Français qui est une des premières préoccupations et on le comprend.
Oui, donc vous venez de le dire, hein, le Conseil constitutionnel a été saisi par la France insoumise et le Parti socialiste et ça peut retarder l'application du pass vaccinal. On attend une décision aujourd'hui et sur le fond, si le pass est adopté, pour que les auditeurs comprennent bien, comment il fonctionnera et dans quel lieu?
Alors d'abord, on attendra quand même le décret, hein, parce que ce que l'on vote, ce sont des lois et les mises en application, c'est le gouvernement qui en décide. Mais il y a un certain nombre de lieux où l'on peut se retrouver, les bars, les restaurants, etc., où, de la même manière que ça fonctionnait avec le pass sanitaire, ce seront des restrictions qui sont cette fois-ci liées au pass vaccinal. Ça veut dire que ceux qui pouvaient y entrer avec un test, etc., ne pourront plus y venir. Donc c'est clair que c'est un champ social qui n'est plus possible. Alors, je vais parler du restaurant, je vais parler des bars, je pourrais parler du TGV ou des choses comme ça. C'est dramatique d'en arriver à cette situation-là parce que, je le répète, la liberté est quelque chose de fondamental. Moi, je suis pour vaccin, je suis vacciné au pays de Pasteur qui a inventé les vaccins. Bon, c'est une chose, mais je considère que chacun doit conserver sa liberté.
Et plus globalement, sur le sujet santé, vous avez commencé à l'évoquer, quelles doivent être, selon vous, les priorités du gouvernement ?
D'abord, il faut réouvrir des lits. Enfin, il n'est pas possible que dans le pays qui doit être un de ceux qui paye le plus cher pour sa santé, on ait une si mauvaise gestion. Il y a une deuxième chose qui est importante à faire, de mon point de vue, c'est de faire qu'il y ait plus de personnel soignant et moins de personnel administratif. Nous avons environ 30% de personnel administratif. Qui font du reporting, des choses comme ça. C'est-à-dire que plutôt que de concentrer les forces là où on en a besoin, on est en train d'emmerder les gens, d'emmerder les soignants dans des reportings qui font qu'on a une machine administrative qui est terrible. Donc, à même coup, on est moins efficace que ne peuvent l'être nos voisins. On a en gros 30% d'administratifs dans les hôpitaux en France. Je crois qu'il y en a à peine la moitié en Allemagne. C'est dire quand même qu'il peut y avoir des grands pays qui fonctionnent normalement sans qu'on ait ce carcan administratif qui a été encore renforcé par M. Macron.
Et puis, dernier sujet dans le domaine de la santé, mais cette fois à l'échelle locale. Le mois dernier a été inauguré le centre ophtalmologique Iris dans les locaux de la gare SNCF côté Mantes-la-Ville. Quel est l'intérêt d'une telle offre pour Mantes-la-Ville et le Mantois en général ?
C'est un intérêt pour le Mantois en général parce que situé au niveau d'une gare, c'est forcément un lieu où il y a énormément de passages. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que la gare de Mende, c'est 10 à 12 000 passages par jour. C'est dire combien est-ce que de personnes peuvent être en facilité de venir consulter. On sait que les consultations en ophtalmologie peuvent des fois prendre un petit peu de temps parce qu'on a là aussi peut-être pas suffisamment de praticiens. Vous savez que le désert médical ne touche pas que les généralistes, il touche également un certain nombre de spécialistes. Donc qu'on puisse avoir une offre et de jeunes praticiens qui viennent s'installer à côté d'une gare, c'est-à-dire d'un lieu de vie, une gare qui va devenir une gare éole, quelque chose de particulièrement intéressant. Le département des Yvelines, à l'initiative de Pierre Bédier, a voulu que sur l'ensemble des gares, et plus particulièrement celle d'Éole, on puisse se projeter dans l'avenir avec un développement qui soit alentour pour qu'il puisse y avoir un certain nombre d'offres de services qui puissent être proposées à tous ceux qui viennent, enfin, qui ont besoin de prendre le train pour pouvoir se rendre notamment sur leur lieu de travail.
Passons à présent à la politique locale et nous nous rendons à Mantes-la-Jolie. Il y a une dizaine de jours, Raphaël Cognier a donc démissionné de son poste de maire de la ville. Il a été remplacé par son premier adjoint Sidi Elhammer avant les élections qui seront programmées dans quelques semaines. Comment jugez-vous la situation globalement ?
Et il a démissionné, il s'était engagé à le faire avant. Enfin, il a donné sa démission, ce qui permet de clarifier un certain nombre de choses et puis surtout de pouvoir, après ces élections, se projeter de nouveau dans l'avenir. Or, de mon point de vue, il était important que l'on puisse avoir ce changement parce que on l'a vérifié dans le temps. On a un certain nombre d'inactions ou un certain nombre de manquements ont pu être constatés. Il est important qu'on puisse y mettre fin.
Et alors, concernant les prochaines élections municipales qui vont arriver très prochainement, comment vous voyez les choses, avec notamment les autres partis qui seront candidats ?
Comment je vois les choses, ce n'est pas à moi de décider ce que les autres partis feront. Chacun est libre, vous le savez, de pouvoir se présenter à une élection municipale. Il faut avoir 45 noms qui partagent le même projet et qui ont la même envie de fonctionner ensemble. J'imagine que plusieurs de ceux qui sont engagés sur Mantes-la-Jolie depuis de nombreuses années auront à cœur de vouloir présenter ce que peuvent être leurs perspectives. Et puis, les électeurs diront les projets pour lesquels ils ont envie de souscrire.
Et vous ne craignez pas les dissensions entre la liste conduite par Pierre Bédier et puis celle conduite potentiellement par Raphaël Cognier ne risque-t-elle pas d'affaiblir la majorité actuelle ?
Écoutez, d'abord, Pierre Bédier ne conduira pas de liste. Ça, c'est la première chose, puisque, comme vous avez dû le voir dans la presse, Jean-Luc Santini va conduire une liste. Ça, c'est la première chose. Et Jean-Luc Santini a toutes les capacités qu'il faut, parce que on se connaît depuis plus de 25 ans, plus d'un quart de siècle. Il a participé à tout ce que sont les différentes actions qui ont permis de transformer notre ville en profondeur de longue date. Je l'ai eu comme adjoint. Je peux vous assurer que non seulement sa connaissance des dossiers, sa rigueur et sa force de travail feront que l'ensemble des projets sur lesquels nous nous sommes engagés en 2020 seront extrêmement bien traités, comme ils l'ont été depuis un quart de siècle. Il est dommage que nous ayons cette petite interruption. Manifestement, ça a été un temps de perdu.
Nous terminons cet entretien en parlant d'une autre élection, les législatives, cette fois prévues au mois de juin. Vous faites partie pour l'instant des 4 candidats investis par les Républicains. Quel bilan tirez-vous de votre mandat actuel ? On a 6-7 minutes devant nous.
Tirer un bilan en si peu de minutes est quand même extrêmement difficile parce qu'il est varié, il est dans un grand nombre de domaines. Tous ceux qui ont fait l'objet des différentes actions politiques et des actions d'opposition, assez souvent, vis-à-vis de ce que le gouvernement a pu décider. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai sorti un bilan de toute l'action, même s'il est déjà lui-même synthétique, de toute l'action que j'ai pu mener. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs qui pourront cette fois-ci prendre le temps d'une lecture qui n'est pas âpre, qui peut être rapide, à le retrouver sur mon site michelvialet.fr et qui va traiter de tous les sujets, qui sont, que ce soit les grandes lignes de ce que j'ai pu défendre d'un point de vue national, et puis les sujets que j'ai défendus d'un point de vue local. Il y en a un qui m'a été cher, et qui l'est toujours d'ailleurs, c'est celui de mon opposition aux carrières cimentières au cœur du parc naturel régional du Vexin. Ce sujet, pour le moment, on va dire, est en stand-by, puisque le groupe Heidelberg Cement a, pour le moment, renoncé, en tout cas, à cette exploitation. Mais ça ne veut pas dire que la concession, elle, est éventuellement... n'existe plus. Et donc, il y a lieu de maintenir ce combat auprès du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a la capacité à pouvoir dire que cette concession n'existe plus, ce qui permettrait de retrouver l'esprit et puis la tranquillité par rapport à ce projet insensé qui était de près de communes, trois communes quasiment, c'est-à-dire Brion-Vexin, Sailly et un peu Montalet-le-Bois, d'aller faire un gigantesque trou à l'image de ce que l'on trouve le long de l'autoroute et en plein cœur d'un parc naturel régional. Donc ça, c'est un premier élément de satisfaction qu'il faut poursuivre. Si je devais tirer un autre grand sujet, cette fois-ci d'un point de vue national, de ce qu'a été mon action, ça a été une action très tournée vers l'environnement. D'ailleurs, je suis membre de la commission développement durable et aménagement du territoire. Et cette action s'est concentrée sur la lutte contre le plastique. Pourquoi ? Parce que le plastique, c'est dramatique. Ces facteurs de perturbateurs endocriniens qui sont tout à fait nuisibles à la santé, puisqu'ils peuvent être facteurs de pathologies comme le cancer, le diabète, les maladies de la reproduction, et je ne vais pas tous les citer, mais des maladies qui nous touchent tous et qui sont extrêmement dangereuses. Donc cette action, pour le moment, a participé de la sensibilisation. D'ailleurs, j'ai été porteur avec un autre député d'une proposition de résolution qui a été adoptée à une très très grande majorité au mois de décembre, visant à faire que on puisse porter ce sujet au niveau national en le déclarant comme un sujet d'importance à traiter, mais qu'il soit également porté avec des actions au niveau européen et au niveau international. Parce que le plastique, on en a en France qui arrive de l'extérieur. Si je citais Coca-Cola par exemple, Coca-Cola, c'est 100 milliards de bouteilles en plastique par an dans le monde. C'est considérable, avec toute la pollution que ça peut générer. Et qui est facteur d'atteinte grave, pas simplement pour les animaux, pas simplement pour la biodiversité, mais également pour l'homme.
Merci beaucoup, Michel Vialet, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à tous les auditeurs d'aller sur mon site. Je fais un tout petit peu de publicité, celui que j'ai dit tout à l'heure, www.michelvialet.fr, où ils retrouveront une information beaucoup plus abondante que ces quelques 20 minutes.
Merci à vous, Michel Vialet. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je remercie également Robin qui s'occupe de la technique. Très bonne journée à tous. Juste après la pub, ce sera Pauline et Fredo qui vous accueillent pour la matinale et votre journal d'information locale à 8h30. Très bonne journée à tous à l'écoute de BPM.
Rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.